Le grand avantage d'une retraite méditative par rapport aux autres formations d'adultes, c'est que quand on n'a rien à dire, ça fait partie de l'enseignement. On peut se taire. C'est pas mal vu. C'est pas mal. Vous ne saurez jamais si j'ai des moments de silence dans cette causerie, si c'est parce que je suis profondément en train de vous laisser l'espace nécessaire pour assimiler la sagesse que je suis en train de vous transmettre, ou si je ne sais juste absolument pas quoi dire. Et ça, c'est un privilège. Je m'excuse d'avance auprès des personnes dont ce n'est pas la première retraite. Je dis souvent la même chose. C'est en partie, je me dis que c'est peut-être un vice familial, parce que j'ai un oncle journaliste qui recyclait ses chroniques, un grand-père pasteur qui recyclait ses prêches. Ah bon. Mais je me dis aussi que ça fait quand même 2500 ans que c'est à peu près la même chose qu'on explique aux gens concernant la méditation, donc c'est difficile de se renouveler complètement. Ce soir, je voulais vous proposer un guide de survie pendant une retraite méditative, juste un petit rappel de comment maximiser le plaisir et minimiser le déplaisir. Et puis ça fait de toute façon partie de l'intérêt d'une retraite, c'est changer sa relation à ce qui nous arrive, profiter de l'opportunité de la retraite pour le faire encore mieux que d'habitude. Et demain, je bénéficierai peut-être de vos questions. Je vais laisser un post-it ici et vous pourrez poser des questions. Alors, les questions dont vous pensez que ça vaut la peine, ça vaut toujours la peine, mais que ça vaut la peine d'en parler en groupe, que je réponde, pas une question qui vous concerne que vous, mais quelque chose qui vous concerne et qui pourrait concerner d'autres personnes. Et demain soir, je ferai une causerie autour de ces questions et peut-être autour d'autres choses que j'aurai préparées aussi, en fonction du nombre de questions que je reçois. Parfois, je me précipite plein d'espoir parce que j'ai mon premier post-it. Et puis c'est marqué, est-ce que tu pourras rappeler que les toilettes des femmes sont toujours bouchées? Je me décompose. Parce que ce n'est pas une question que je pourrais exploiter pour la causerie du soir. Guide de survie pendant une retraite. La méditation, on en a dit que le bonheur arrive toujours par accident, mais que la méditation augmente le risque d'accident considérablement. Donc, c'est un petit peu la perspective que j'en ai. De quoi est-ce que vous pouvez profiter pendant cette retraite? À profiter de beaucoup de choses. Un de mes plaisirs dans toutes les retraites, avec le cadre qu'elles offrent, c'est la capacité à redécouvrir notre potentiel à l'émerveillement. Parce qu'on se blase beaucoup. C'est un processus cognitif normal. La première fois que vous voyez une sauterelle, quand vous êtes enfant, vous avez la bouche ouverte, vous trouvez ça extraordinaire. Et la troisième fois, vous dites, tiens, une sauterelle. Hein? Donc, on a tendance à faire ça, à perdre l'émerveillement qu'on avait connu la première fois. Et dans une retraite, on peut la reconquérir. Et j'ai des souvenirs avec ma fille, parce que les enfants, évidemment, sont géniaux pour ça. J'ai souvent parlé de son premier bonbon, qu'on avait évité de lui en donner, étant des bobos ordinaires, qui disaient que le sucre, c'était pas bien pour les petits-enfants. Et à l'occasion d'un mariage, elle avait découvert ce que c'était qu'une fraise Tagada. Elle devait avoir 3 ans. Et elle était venue vers moi, avec des yeux immenses, et dit « Papa, une dame m'a donné quelque chose, ça s'appelle bonbon !» Il fallait absolument qu'elle se rappelle de ce que c'était pour qu'on puisse en retrouver de ce truc. Et il y avait vraiment cet émerveillement, cette extase de la découverte de quelque chose de complètement nouveau. Et pareil, dans une espèce de promenade en barque que je ne trouvais pas très intéressante quand elle avait peut-être 4 ans. Je lui ai dit un peu, bah, c'était pas très intéressant pour toi cette promenade. Elle me dit, mais non, parce qu'en fait, il y avait plein de grenouilles le long du canal où on était. Et j'avais jamais vu des grenouilles. Cette espèce de fascination pour quelque chose de nouveau qu'on perd et qu'on doit reconquérir. Et vous pouvez reconquérir cette capacité en relation avec beaucoup de choses. Moi, à chaque fois, je m'émerveille de la nourriture. Alors ici, en plus, c'est nouveau. Enfin, c'est des goûts particuliers. Il y a des légumes lacto-fermentés, il y a des épices mystérieuses. Donc, vous pouvez vraiment avoir cette bouchée qui est la première bouchée, qui est la découverte de quelque chose, et la deuxième qui est la redécouverte. Et ça peut presque se renouveler, pas tout à fait à l'infini, parce qu'il y a quand même un moment où on a une saturation des papilles. Et on peut vraiment vivre chaque bouchée comme si c'était la toute première bouchée de quelque chose de complètement nouveau. C'est assez merveilleux quand on arrive à le faire, même si ça ne dure pas tout le repas. Vous pouvez regarder le paysage avec les yeux neufs. Vous pouvez vivre chaque respiration comme si c'était la première. Et ça implique aussi de savourer les respirations. Et on peut les savourer par moments. Et j'aimerais vous dire comment. On peut fermer les yeux. Quelques instants, ce sera extrêmement court. Et comme on sait si bien le faire, on prend conscience de la sensation de la respiration. Et qu'est-ce que c'est que le plaisir de respirer? À l'inspiration, c'est le plaisir de sentir que votre corps se nourrit. Puisque c'est ce qu'il fait, il prend de l'air et il s'en nourrit. Et vous pouvez prendre conscience pendant les prochaines inspirations il y a quelque chose de cet ordre qui se passe pour vous, un corps qui est satisfait de pouvoir manger de l'air avec chaque inspiration. Comment ça se manifeste pour vous? C'est quelque chose qu'on réalise quand on reprend son souffle, quand on nage, le plaisir du bol d'air qu'on s'octroie en inspirant. Et le plaisir de l'expiration, c'est le plaisir d'un corps qui se détend, puisque il y a toujours une forme de détente musculaire qui accompagne l'expiration. Prenons conscience de cette détente avec chaque expiration. À l'inspiration, corps qui se nourrit. À l'expiration, corps qui se détend. Et peut-être le plaisir de la marche méditative. Je ne sais pas si vous arrive de temps en temps d'avoir une forme de satisfaction à sentir le mouvement du pied qui se décolle, ou du geste du pied qui s'avance, un plaisir d'un corps qui fait un pas, un plaisir tout simple, qu'on a tendance à snobber parce que les plaisirs subtils, on y a moins accès quand on n'est pas en situation de retraite. Et chaque pas, et ça c'est un autre plaisir, chaque pas est différent du précédent. Chaque respiration est différente de la précédente. Il y a ce renouvellement, cette fraîcheur qu'on décrit souvent dans le rapport méditatif aux choses. Quelqu'un disait après une retraite de 10 jours silencieuse qu'elle avait réalisé que chaque brin d'herbe était différent. Et c'est un petit peu ça. Plaisir d'un esprit calme quand il l'est, du calme. Je ne dis pas que ce soit toujours le cas. Mais par moments, on a cette appréciation d'un moment de calme, d'un moment de stabilité. Plaisir d'être libéré de la tyrannie des écrans. Ça concerne peut-être que moi. Je pense qu'ici, il n'y a que des gens qui ont des relations saines, équilibrées, satisfaisantes à leurs écrans. Mais moi, à chaque fois que je vis une retraite, je suis content d'avoir trouvé un prétexte pour ne pas consulter mon téléphone. Il y a les plaisirs liés aux méditations, aux états qu'on cultive dans les méditations. La stabilité dans une méditation sur la respiration ou une marche, la liberté dans une méditation d'attention ouverte qu'on pratiquera un peu plus ces prochains jours, et la chaleur, cette chaleur émotionnelle dans une méditation de bienveillance, on en fera une petite tout à l'heure. Mais vous aurez des hauts et des bas. Vous avez probablement déjà eu des hauts et des bas dans cette première journée. Il y a des pics de concentration, et après il y a des gouffres de déconcentration absolue. Et c'est souvent pareil sur le plan moral, sur le plan physique. Alors, comme disent les Américains, c'est normal et « it's okay ». Ça fait partie du processus de la retraite et on ne peut pas espérer sur 3 jours, la même chose qu'on espère dans une méditation unique, quotidienne, de 30 ou 45 minutes. Il y aura forcément des hauts très hauts et des bas très bas. Et c'est normal, ça fait partie du jeu. On peut nommer et on peut identifier ces difficultés. Et ça aide de pouvoir les nommer. Je rappelle l'existence d'une vieille liste bouddhiste qui est géniale, la liste des 5 obstacles, qui est toujours pertinente maintenant, parce qu'on a exactement les mêmes états quand on médite. Ça couvre à peu près tout. Il y a l'agitation, physique ou psychologique, la torpeur à l'opposé, la somnolence, la torpeur, l'état qui peut être physique, ça peut être vraiment de la fatigue, ou ça peut être simplement un état de confusion, de léthargie mentale, où on se sent un peu confus. Il y a le rejet. Le rejet, ça couvre au sens large toute cette famille d'émotions quand on n'est pas satisfait de ce qui est là. Il y a une émotion qui ne nous plaît pas, une sensation qui ne nous plaît pas, quelque chose qu'on voit, qu'on entend, qui ne nous plaît pas, et ça provoque une rumination. Donc toutes les émotions négatives, anxiété, tristesse, colère, finalement, c'est des variantes de cet état fondamental de rejet. Je n'aime pas ça, et je peux y réagir par de la peur, de la colère, de la tristesse. Et dans une retraite, qu'est-ce qu'on a comme rejet? On a parfois des souvenirs qui remontent à la surface, donc on a des remords ou de la culpabilité ou de la honte ou de la tristesse. On peut avoir de la colère aussi, l'anxiété suivant ce qui nous arrive. Finalement, c'est un espace aussi de tranquillité, et dans cet espace, les émotions peuvent remonter à la surface, et on s'attend à ce qu'elles le fassent, et c'est peut-être bien qu'elles le fassent, mais elles ont tendance à le faire dans une retraite par moment. Donc, vous y serez confrontés, et parfois, il y a aussi du rejet lié aux relations qu'on a dans une retraite silencieuse, parce que c'est pas vrai que parce qu'on est dans le silence, on n'a pas de vie relationnelle dans une retraite. C'est assez intéressant. Alors sur 3 jours, peut-être que ce sera moins intense, mais sur 10, on a des phénomènes qui ont été bien documentés dans la littérature, qu'on appelle Vipassana Romance et Vipassana Vendetta. Ça veut dire que vous êtes dans le silence avec des gens que vous n'avez jamais vus. Et tout à coup, il y a cette personne. Et avec cette personne, l'amour serait possible. Parce que vous sentez qu'elle a une espèce d'aura, de présence. Alors, en 3 jours, je vous préviens, je m'excuse d'avance de vous casser l'ambiance romantique. Ça arrive plus rarement, mais en 10 jours, ça peut arriver. Et cette personne parfaite, et tout ce qu'elle fait est parfait. Vous ne savez pas vraiment pourquoi, parce que vous ne lui avez pas parlé. Vous ne la regardez pas beaucoup, mais enfin, voilà. Et la Vipassana Vendetta, ben, c'est cette personne qui vous est passée devant dans la file d'attente pour le repas, parce qu'elle n'a voilà, aucun contrôle sur sa faim. Elle a coupé votre route dans la méditation marché. Évidemment, elle l'a fait exprès. Elle vous a pris votre tasse, alors que c'était votre tasse à tisane, avec votre nom. Souvent, dans les retraites, on met le nom sur un bout de scotch sur sa tasse pour réutiliser les mêmes. Et toujours quelqu'un qui va, par erreur, prendre une tasse qui n'est pas la sienne. Et on peut construire des scénarios impressionnants sur la base de rien, idéaliser ou à l'inverse, maudire quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Et ça vous arrivera probablement pas, je ne le souhaite pas avec cette intensité, mais vous pourrez vous surprendre à avoir des jugements sur les personnes que vous croisez, celles qui font partie de notre groupe, les autres, les personnes qui sont à la cuisine, à la réception. Même dans ce contexte où finalement on n'échange pas, il ne se passe pas grand-chose, mais on a suffisamment d'informations pour commencer à fabriquer des jugements. Ça aussi, c'est normal. Et vous aurez, ça c'était le rejet, et comme c'est un gros chapitre, je vous ai donné plein d'exemples, complémentaire au rejet, il y a aussi l'envie. Et dans une retraite, ben, il peut y avoir l'envie d'écran. Parce que voilà, on a nos habitudes et on aimerait savoir ce qui se passe sur Instagram. L'envie de manger en dehors des heures des repas, parce qu'en fait, on a des heures fixes, on n'a pas forcément l'habitude. Envie de rentrer à la maison. Ça peut arriver. Toutes ces impulsions-là. Je me rappelle d'une participante qui avait quitté une retraite et puis qui m'avait écrit qu'elle était en train de manger une glace sur une terrasse au bord du lac, 2 heures après son départ. Il y avait une impulsion irrésistible. Résistez. Je vous le dis avant, si ça vous arrive, résistez à l'appel. Non, ce sont des impulsions que parfois il faut suivre. Mais là, ce qu'on mange est tellement bon que vous ne pourrez pas trouver mieux ailleurs. Il y a le doute. Et le doute est intéressant parce qu'il nous renvoie souvent à notre pratique méditative. Donc le doute, c'est est-ce que je fais ça bien? Est-ce que j'ai raison d'être ici? Ça passe souvent par des jugements de valeur sur comment on fait les choses, sur qui on est, sur ce qu'on fait là. Donc, si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces états-là, c'est normal et ça fait 2500 ans qu'on enseigne que toute personne qui médite, ben, se retrouve immédiatement confrontée à ces 5 états. Il y a un idéal quand on est confronté à un de ces états et quand il prend beaucoup de place, surtout pour le rejet, je pense, toutes les émotions comme l'anxiété, la tristesse, la colère. L'idéal, c'est qu'on serait un peu comme le garde-troupeau, le berger, avec ses brebis, c'est-à-dire qu'elles font bai, pour peu que les brebis fassent bai, je crois, et on les laisse bêler. Et si on doit faire quelque chose, si on doit en soigner une qui a sa patte blessée, on le fait, mais sinon on les laisse bêler et ça ne nous affecte pas plus que ça. C'est une vieille métaphore bouddhiste d'ailleurs, parce qu'à l'époque il y avait déjà les gardiens de troupeaux. Mais on n'arrive pas toujours à avoir la même relation à nos pensées et à nos émotions qu'aux brebis qui bêlent. Parfois, ça prend un impact sur nous très important, ça prend plus d'ampleur, ça devient obsédant, on tourne en rond. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Le signal, c'est qu'on sent que on est tout à coup empêtré dans quelque chose, submergé par quelque chose, qu'il y a vraiment une pensée, une émotion, une sensation qui commence à nous obséder ou à revenir très très fréquemment. On utilise notre pleine conscience. Et qu'est-ce qu'on fait? Face aux émotions difficiles, on sait très bien ce qui ne marche pas. Ça ne marche pas de leur obéir ou de justifier leur existence. Si vous avez de l'impatience, par exemple, et que vous obéissez à l'impatience, ça voudrait dire que vous arrêtez votre méditation en cours de route. Parce que l'impatience vous aura dit, c'est beaucoup trop long. Objectivement, c'est trop long, arrête. Et vous l'aurez écouté. Parce qu'il y a toujours une émotion forte, elle parle avec un langage qui cherche à vous convaincre quelle est la vérité, quelle est la réalité objective. Ou alors... Ça, c'est l'étape d'avant, parfois. Si on ne la suit pas, on va en tout cas la légitimer, puis se dire, oui, ben bon, c'est vrai que c'est quand même particulièrement long. Et ça ne nous rend pas plus satisfaits, généralement. Ni de lui obéir, ni de la justifier. Parfois, on lui résiste, ou on se la reproche, on dit, je ne veux pas de cette émotion-là, je ne veux pas de cette impatience, je ne devrais pas l'avoir, elle ne devrait pas être là. J'aimerais cet état idéal sans impatience, ou j'aimerais me débarrasser de cette impatience. Ça peut être un peu de l'envie d'autre chose ou du rejet de ce qui est là. Et ça ne marche pas non plus en termes de satisfaction. Comme le disent les enseignants de méditation, et on n'est plus censé le dire, mais c'est quand même assez vrai, ce à quoi l'on résiste, persiste. Et si on résiste à la présence d'une émotion, si on veut la faire disparaître, on la renforce. Une autre option qui est un petit peu moins disponible en retraite, mais quand même, on peut lui obéir, on peut lui résister, ou on peut choisir l'anesthésie. Choisir quelque chose qui nous fera oublier très temporairement la présence de ce qui est désagréable. Et dans la vie quotidienne, ben on a le carré de chocolat, le verre de whisky, la bière. En retraite, dans une méditation assise, silencieuse, vous pouvez penser que vous manquez de ressources pour anesthésier ce qui se passe. Souvent, on en trouve quand même. Et par exemple, vous pouvez vous dire « Non, moi je suis... Je suis marié depuis longtemps, donc je ne garantis pas que ça se passe exactement comme ça. Je ne sais plus dans quel sens ça se fait, mais vous pouvez imaginer que cette personne très belle que vous avez vue sur Tinder aura swipé dans le même sens que vous. Je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche. Et que vous pourrez vous rencontrer et qu'une belle histoire pourra commencer entre vous. Et après, vous réalisez que vous avez un peu mal au dos et vous revenez à la respiration. Et puis, 10 secondes plus tard, vous êtes de nouveau dans votre dîner aux chandelles avec cette personne charmante que vous avez rencontrée sur un réseau de rencontres. Et vous vous dites, c'est marrant, cette pensée revient à chaque fois. ce scénario agréable. Et après un certain temps, vous réaliserez qu'en fait, à chaque fois que vous avez mal, que vous sentez la douleur et qu'elle devient déplaisante, vous trouvez un truc pour penser à quelque chose qui vous en fait sortir. Et une comédie romantique, c'est pas mal. Ça peut marcher assez bien. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres pensées. Vous pouvez penser bêtement à ce que vous mangerez tout à l'heure, s'il y a un repas bientôt. Donc on a aussi des moyens plus subtils, parce qu'on n'a pas accès à tout ce qu'on a à la maison, de choisir l'anesthésie quand on a quelque chose de désagréable dans une méditation. Et c'est intéressant de le remarquer aussi. Et l'anesthésie, évidemment, ça marche que très temporairement, parce qu'en fait, si on a une émotion désagréable, une bouffée d'anxiété, et qu'on pense à un scénario romantique ou qu'on pense à ce qu'on mangera au repas de midi, ben, on se sent temporairement mieux, mais après, généralement, on replonge dans la pensée qui avait provoqué cette fuite. C'est ce qu'on avait en fait résumé dans le cours, si vous l'avez suivi avec moi, avec cette idée des flèches. Quand on a quelque chose de désagréable, on y réagit par du rejet, par une rumination qui justifie l'émotion, par une fuite dans une expérience agréable, qui est cette anesthésie. Et au final, ça ne nous fait pas nous sentir mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux étapes quand on est face à une émotion ou une sensation désagréable. D'abord, on fait de cet obstacle, on fait de cette émotion, un objet de méditation. Et quand on ne se sent pas bien, c'est le premier réflexe, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe et est-ce que je peux prendre ce qui se passe et en faire un objet de méditation. Pour ne plus le subir, mais être un acteur dans la relation que vous avez avec cette émotion, avec cette sensation, avec ce qui vous arrive. Et généralement, on prend le ressenti physique comme façon d'entrer en relation avec même une émotion. Parce que si vous commencez à vouloir vivre une émotion en pleine conscience à travers les pensées qui sont présentes, vous allez rapidement vous y perdre. Alors que si vous vous demandez qu'est-ce que je sens physiquement en relation avec cette émotion, vous avez quelque chose que vous pouvez saisir avec votre attention, qui vous permet d'être en relation avec l'émotion et de la vivre dans l'instant présent. Et on a toujours de la place. Même pour accueillir ce qui est très désagréable dans notre pleine conscience, j'ai toujours comparé la pleine conscience à cette moufle du contrus. Vous connaissez le contrus de la moufle? Une moufle qui traîne dans la forêt, et il y a deux petites souris, je ne me rappelle plus du tout les détails de l'histoire, donc je vais tricher. Il y a deux petites souris qui disent « Ah, c'est merveilleux, un abri, il fait tellement froid », et elles se mettent dans la moufle. Puis après, il y a un lièvre qui passe, qui dit « Oh, mais une moufle, est-ce que je peux entrer ?» etc. Et petit à petit, tous les animaux de la forêt arrivent à s'engouffrer dans la moufle. Je crois qu'à la fin, elle explose. Alors, oublions la fin. Mais la pleine conscience, c'est cette moufle. On peut y mettre vraiment même une anxiété immense. Elle arrivera à tenir dans la chaleur de notre petite moufle de pleine conscience, comme dans le contrus. On peut y mettre énormément de choses. Donc, on prend cette décision de ne pas fuir, de ne pas chercher à supprimer, mais de s'intéresser, de sentir et d'observer. Notre anxiété, notre colère, notre tristesse, notre impatience, notre douleur. Et quand on a pris cette décision-là, on va chercher à retrouver, à révéler deux qualités de notre expérience qu'on aura forcément perdu de vue. La première, c'est l'impermanence. Que tout ce qu'on vit est impermanent. Je vous rappelle la phrase fétiche liée à l'impermanence, qui est le « ça aussi, ça va passer ». Ça s'applique à tout. Ça s'applique aux pensées, aux émotions, aux sensations, aux sons, aux goûts, aux émotions. Donc, mon avertissement habituel, durant cette retraite, vous aurez des moments de confort. Ils vont passer. Vous aurez des moments d'inconfort qui vont passer aussi. Vous aurez des moments de grande et parfaite concentration. qui vont passer, de déconcentration qui vont passer, de somnolence, lucidité, agitation, calme, rejet, d'acceptation, et ça passera. De doute, ça passera aussi, même si on doute parfois que ce soit possible. De confiance, ça va passer. D'anxiété, ça va passer. De joie, de tristesse. D'envie de rentrer à la maison ou d'aller sur une terrasse. Ça va aussi passer. En tout cas, accordez-lui deux petites heures. Et si ça n'a pas passé, vous pouvez rentrer chez vous ou aller manger la glace. Envie de vivre toute votre vie à Mingshan et de manger des légumes lacto-fermentés en silence, ça va passer. Alors, ça aussi, ça va passer. Si certaines émotions nous submergent, c'est entre autres parce qu'on oublie qu'elles vont passer, parce qu'on n'y croit pas. On pense qu'elles sont là pour rester ou qu'il faut qu'on fasse un truc spécial pour qu'elles passent, ce qui revient au même. Parce que la vérité, c'est qu'elles sont naturellement impermanentes. Donc, la vague monte et la vague redescend. Comment est-ce qu'on fait pour rétablir cette impermanence? À nouveau, on se saisit de la sensation. C'est facile de penser qu'une rumination anxieuse dure. C'est beaucoup plus difficile de croire qu'elle va durer si on observe la manifestation physique de l'anxiété. La boule dans la gorge, si vous commencez à, ou le nœud dans l'estomac, si vous commencez à y porter votre attention, vous en faites un objet de méditation. Donc vous oubliez l'histoire, les paroles intérieures, juste la sensation, le ressenti. Et que vous respirez avec, vous allez réaliser d'abord que ça change. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours la même intensité, ce n'est pas toujours la même sensation, elle n'est pas toujours exactement au même endroit. Et par moments, elle s'atténue. Et par moments, elle passe. Et après, il y a peut-être une pensée anxieuse qui revient, et ça la ramène. Et après, elle rechange, et après, elle repasse. Vous réalisez que cette émotion anxieuse dont vous pensiez qu'elle était solide, comme une espèce de bloc dans votre esprit et dans votre corps, en fait, elle est tout le temps en train de changer. Elle se renouvelle, elle disparaît, elle réapparaît. Et c'est un début de soulagement. C'est juste une brebis qui bêle. Chaque bêlement a un début et une fin. L'impermanence, c'est un petit peu visuellement, pour les personnes qui aiment les métaphores visuelles, ça revient beaucoup à prendre la perspective que vous auriez si vous regardiez un film au ralenti. Au lieu d'avoir l'impression qu'on a une angoisse qui monte et qui s'installe, on prend conscience avec finesse de ce qui se passe instant après instant. C'est ça le côté ralenti, hein, image par image. Et on réalise que à cet instant, il y a une sensation d'une certaine intensité. À l'instant d'après, elle n'a pas la même intensité. À l'instant d'après, elle a peut-être disparu. À l'instant d'après, elle a peut-être réapparu. C'est vraiment cette qualité de détail dans la perception. Et ce que moi je trouve magique, qui peut paraître étonnant, mais qui est exactement ce qu'on expérimente, c'est qu'en observant les émotions, les sensations, et en réalisant leur impermanence, ça vous révèle qu'en fait, il y a quelque chose en vous qui n'est pas impermanent. Parce que cette capacité d'observer, de sentir une émotion dans sa manifestation physique, de sentir que ça monte, ça redescend, elle est toujours là, en fait. Parfois, on oublie qu'elle est là, on perd conscience de sa présence, c'est là qu'on est distrait, c'est là qu'on voyage, qu'on rumine, mais elle est toujours là. Et autant les émotions, les sensations, les pensées, les sons sont impermanents, autant, justement parce que vous pouvez les observer avec cette capacité d'observation, elle n'est pas impermanente, elle est toujours là. Elle est toujours à portée de main. Il y a un petit quelque chose en vous, une espèce de présence méditative que vous pouvez mobiliser et qui sera toujours là. Ça, c'est l'impermanence. Donc, quand on prend conscience de quelque chose de difficile, on frotte un peu, on en fait un objet de méditation pour que ça nous révèle qu'en fait, cette chose-là, elle est impermanente. C'est comme ça qu'on se sentira mieux. La deuxième chose qu'on va faire, c'est que on va prendre conscience que ce qu'on vit n'est pas qui nous sommes. La phrase typique, c'est « nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos sensations, nous ne sommes pas nos pensées ». Quand on est submergé par une émotion, on se confond avec elle. Elle définit notre identité, elle nous définit en tant que personne. On est dedans, on est avec. Et je donne toujours cet exemple, et même si c'est du recyclage d'éditorial et du recyclage de prêche éhonté, je continue parce qu'il est génial, de cette petite fille qui a, dans un documentaire sur les enfants gravement, très gravement malades, qui développe une philosophie de vie extraordinaire, de résilience. Une petite fille qui a une grave maladie du cœur, à laquelle à un moment du reportage on demande « Mais en fait, comment ça va ?» Et qui répond « Mais moi, ça va très bien. C'est mon cœur qui est malade. » Et c'est génial. Et c'est ça, la désidentification. Et je ne peux pas trouver le meilleur exemple. Je trouve que c'est le plus bel exemple qu'on puisse imaginer aussi, parce que c'est un professeur... Je repense au documentaire. Bref, un professeur impressionnant de sagesse, comme les autres enfants du documentaire. Si vous ne l'avez pas vu, si vous avez un paquet de mouchoirs à disposition, ça s'appelle « Et les Mistral gagnants ». Un très, très beau documentaire. Et c'est un résumé de la pratique méditative. L'autre exemple que j'aime bien donner, c'est celui d'un enseignant qui s'appelle Munindra, qui était en pèlerinage en Inde, qui était coincé dans une gare routière à attendre un bus qui ne venait pas, un jour de canicule, très âgé. Et ses disciples qui étaient avec lui, qui à un moment s'inquiétaient un petit peu de savoir comment il allait, puis dire « Mais ça va, maître ?» Et il avait répondu « Ici, il y a de l'impatience, mais je ne suis pas impatient. Il y a de la chaleur, mais je n'ai pas chaud. Il y a de la frustration, mais je ne suis pas frustré. » Et c'est ça la désidentification. C'est cette capacité à dire « il y a de l'anxiété » plutôt que « je suis anxieux ». Et à ce que ce soit vrai, hein, parce que si on le dit juste comme ça, ça ne compte pas. Se désidentifier de ce qu'on vit pour se mettre à l'observer. Ça renvoie aussi à une citation bouddhiste que j'ai souvent utilisée, parce que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cet ermite qui était frustré que malgré tous ses efforts, il ne puisse pas atteindre l'éveil, et qui était allé voir le Bouddha, qui lui avait donné un seul conseil, parce qu'il avait pris conscience que c'était un ermite, qu'il était expérimenté, qu'il avait roulé sa bosse méditative, donc peut-être un conseil simple qui était ce qui lui manquait. Et il lui avait dit, tu dois pratiquer de cette manière, Bahiya. Dans ce qui est vu, il n'y a que ce qui est vu. Dans ce qui est entendu, il n'y a que ce qui est entendu. Dans ce qui est touché, il n'y a que ce qui est touché. Dans ce qui est senti, il n'y a que ce qui est senti. Dans ce qui est pensé, il n'y a que ce qui est pensé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la maladie du cœur de la petite fille, il n'y a que la maladie du cœur. Dans la maladie du cœur, il n'y a que la maladie du cœur. Il n'y a pas une personne dont l'identité entière est définie par la présence d'une maladie du cœur. Dans l'émotion qu'on ressent, il n'y a que l'émotion. Il n'y a pas une personne qui est définie par la présence de cette émotion. C'est exactement la même idée. Et c'est résumé de façon vraiment simple. Dans les pensées, il n'y a que les pensées. On dit aussi que l'observation de la colère n'est pas colérique, l'observation de l'anxiété n'est pas anxieuse, etc. C'est toujours cette idée que, là aussi, ça vous révèle que cette qualité de pleine conscience n'est pas changée par la présence d'une émotion. Elle est toujours la même, en fait. Elle est toujours là, elle est toujours pareille. Une bonne partie de notre souffrance morale va se produire quand on s'identifie à l'expérience. Et c'est vraiment un déclic. C'est aussi simple grammaticalement que de passer de la phrase « ça arrive, c'est en train d'arriver, cette émotion, cette sensation, cette pensée » et tout à coup vous vous dites « ça m'arrive à moi ». Et là, il y a un glissement, un début d'identification. Et quand vous vous êtes dit « ça m'arrive à moi », ben après vous dites « mais ça m'arrive à moi, mais c'est une catastrophe, et pourquoi, et qu'est-ce que je peux faire pour que ça parte, et pourquoi ça m'arrive à moi ?» Alors, il y a le rejet qui commence à s'installer, ça ne devrait pas être là, pourquoi ça m'arrive à moi, c'est pas juste que ça m'arrive à moi. C'est là que vous pouvez commencer à ruminer, oui mais ça m'arrive à moi parce que dans le passé j'ai vécu ça, ou mon éducation, mon enfance. À partir du moment où on est sorti de la conscience de ce qui nous arrive et où on se dit que c'est à nous que ça arrive et que du coup, nous en tant que personne sommes transformés par la présence d'une émotion désagréable, d'une sensation désagréable, qu'on perd notre intégrité, c'est à partir de là qu'on souffre et c'est à partir de là qu'on rumine aussi. Et à chaque fois que on se désidentifie, on prend aussi conscience que cette faculté d'observation, ce petit observateur intérieur, cette présence, cette qualité d'attention, elle est toujours intacte, elle est toujours intègre, elle est toujours là. Elle n'est pas anxieuse et elle n'est pas impermanente, contrairement à ce qu'elle observe. Et comment est-ce qu'on fait pour invoquer cette désidentification, pour qu'elle soit là? Ce n'est pas tellement différent de l'impermanence. C'est beaucoup plus facile, si on prend l'anxiété ou l'impatience, de se désidentifier d'un ressenti physique que d'une pensée. Donc de nouveau, si on sort des pensées et qu'on se demande « Ok, il y a de l'anxiété. Il y a de l'anxiété ici, comme dirait l'autre. Je la sens comment ?» À quel endroit, quelle sensation? C'est peut-être par là, c'est peut-être par là. À partir du moment où vous prenez conscience que cette anxiété, ce n'est pas une partie de votre identité, mais c'est une sensation quelque part, qui est déplaisante, et qui a une certaine qualité, une certaine intensité. Vous commencez à vous en désidentifier. Ce n'est pas forcément suffisant. Pour l'impermanence, c'est vraiment la clé de prendre conscience du corps. Pour la désidentification, nommer aide beaucoup aussi. Simplement ce moment où vous vous dites « Ah, anxiété ». Vraiment littéralement, comme l'enseignant de méditation, « Ah, il y a de l'anxiété, il y a de la frustration ». Vous donnez un nom à ce qui vous arrive, et au moment où vous le nommez, il y a cette opération magique du langage, vous en faites quelque chose que vous pouvez observer. Vous dites « Ah, anxiété !» Et c'est plus « Je suis anxieux, je suis une personne anxieuse, est-ce que je vais continuer à l'être et pourquoi je le suis ?» C'est « Il y a de l'anxiété. » Et cette anxiété, maintenant que je l'ai nommée, je peux la prendre et en faire un objet de méditation. Et je peux observer ce qui se passe physiquement, je peux observer le ressenti émotionnel, le ressenti physique, parce que ce n'est pas moi, c'est juste de l'anxiété qui m'arrive. Moi, ça va très bien, c'est juste qu'il y a de l'anxiété qui est présente. Une image que j'aime bien, c'est l'image de l'eau. Quand on est submergé par une émotion désagréable, on a l'impression d'être dedans, on est dans l'eau, et il y a des vagues, et on n'arrive pas à reprendre notre souffle parce qu'il y a tout le temps des vagues qui nous arrivent dessus. On ne prend pas conscience de l'impermanence, ça veut dire qu'on ne prend pas conscience qu'entre chaque vague, il y a des creux, et que dans ces creux-là, on peut respirer. Et on ne prend pas conscience de la désidentification, ça veut dire qu'on croit que on est dans l'eau, alors qu'en fait, on a un radeau, et qu'on peut se mettre dessus. Et la désidentification, c'est ce moment où on dit « Ah, il y a de l'anxiété. » Vous sortez de l'eau et vous vous mettez sur votre planche de surf. Et vous pouvez surfer sur les vagues émotionnelles. Et ça monte, et ça redescend, et ça remonte, et ça redescend. Mais ça suit son rythme naturel, et ça dure pas si longtemps que ça. Si on s'en mêle pas avec le rejet, avec l'obéissance aveugle à l'émotion, avec l'anesthésie qui fait que de temporairement nous soulager. Et quand on est très très fort à ce jeu-là, c'est-à-dire généralement quand on est une nonne bouddhiste, qu'on a atteint l'éveil et qu'on habite en Thaïlande, ça donne ça. Citation de Mae Chae Kyu. J'adore cette citation, là aussi. Je m'excuse de la recycler. Absolument tout est reconnu. Le corps, le ressenti, la mémoire, la pensée, la conscience, les sons, les images, les odeurs, les goûts, les sensations, les émotions, le rejet, l'avidité, la confusion, tous sont reconnus. Je les reconnais tous tels qu'ils existent, à leur état naturel. Mais quelle que soit l'intensité de mon exposition à leur présence, je suis incapable de détecter même un instant durant lequel ils auraient quelque pouvoir que ce soit sur mon cœur. Quelle que soit l'intensité de mon exposition à leur présence, je suis incapable de détecter même un instant durant lequel ils auraient quelque pouvoir que ce soit sur mon cœur. Ils apparaissent, ils disparaissent. Ils sont constamment changeants. Ça, c'est l'impermanence. Mais la présence qui les reconnaît, elle, ne change pas un seul instant. Ça, c'est la désidentification. Constante, elle n'est jamais née, jamais morte. Voilà à quoi on peut aspirer en sachant bien que c'est hors de notre portée, parce qu'on n'est pas une nonne bouddhiste, qu'on n'a pas 60 ans de méditation et qu'on ne vit pas en Thaïlande. Mais c'est une bonne inspiration. Pas mieux. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter dans le kit. C'est difficile d'ajouter quoi que ce soit après Mae Chae Kyu. J'espère que ce que je vous ai dit vous aura aidé et pas embrouillé, et que vos prochaines méditations seront des surfs sur la vague de la désidentification et de l'impermanence.